Le journal Billy Van Lutumba.
Nous ouvrons ce journal ce soir avec cette condamnation respectivement à 20 ans de servitude pénale et la peine de mort de 60 miliciens Mobondo dans le Grand Bandundu par le tribunal militaire en procédure de flagrance. Ils étaient poursuivis pour assassinat et mouvement insurrectionnel. Assassinat des chérubins Okende. La balle extraite du corps du défunt provient de l'arme trouvée à côté de lui dans son véhicule. Cette révélation est contenue dans les premiers résultats partiels de l'enquête livrée par le procureur général près de la cour de cassation. Vous suivrez Firmin Vondé sur cette question dans ce journal. Fabrice Moulouahali, avocat, défenseur des droits de l'homme et activiste du mouvement de pression Lucha, est invité de ce journal. Il commente sur le sens et les activités de la commémoration de la journée internationale Nelson Mandela chaque 18 juillet. Pour votre choix de vous informer sur Radio Okapi, nous vous disons merci chers auditeurs, bonsoir et bienvenue donc à votre journal. D'abord, cette nouvelle. 22 Congolais sont rentrés ce jeudi à Kinshasa en provenance du Soudan où ils étaient coincés depuis le déclenchement de la guerre en avril dernier. Ces Congolais, pour la plupart des étudiants, sont arrivés après un bref séjour en Égypte. Ils ont atterri à l'aéroport de Ndjili vers 12h45 accompagnés de Kasongo Musenga, ambassadeur de la RDC en Égypte. D'après un tweet du ministère des Affaires étrangères, ils étaient bloqués à l'Université internationale d'Afrique depuis le début de la guerre soudanaise déclenchée en avril 2023. Au mois de juin dernier, 10 Congolais avaient trouvé la mort lors des bombardements effectués le dimanche 4 juin sur le campus de l'Université internationale d'Afrique situé à Khartoum. Premier titre de ce journal, dans le Kwilu, plus de 60 miliciens d'Imobondo ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale pour les uns et à la peine de mort pour les autres. Ils sont parmi les 79 qui ont été arrêtés dans la province du Kwango. Ce verdict a été rendu mercredi 19 juillet par le tribunal militaire de garnison des Kikwit, Kwilu et Kwango siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine en procédure de flagrance. C'était au stade du 30 juin dans la ville de Kikwit. Selon les sources proches de ce tribunal, ces prévenus ont été poursuivis par le ministère public pour plusieurs chefs d'accusation, notamment l'assassinat et mouvement insurrectionnel. Irène Boma.
Parmi ces 79 prévenus, présentés comme les assaillants de la milice Mobondo qui ont comparu devant le tribunal militaire de Kikwit, 64 sont reconnus coupables et ont été condamnés. Les sources proches de ce tribunal précisent que 63 d'entre eux ont écopé de 20 ans de servitude pénale principale pour l'infraction du mouvement insurrectionnel et un Mobondo a été condamné à la peine capitale pour assassinat. Il s'agit de M. Mawensi Mulopo, auteur du meurtre du colonel Bienvenu Kabwe à mai dernier à Bachongo au Kwango lors de l'attaque contre ces villages par cette milice. Outre les condamnés, au moins 15 prévenus ont été acquittés par le tribunal militaire faute de preuves, a-t-on appris des mêmes sources. Rappelons que tous ces miliciens Mobondo ont été arrêtés au territoire de Kenge de la province du Kwango par les éléments de la 11e région militaire garnison de Kikwit sous le commandement du général Padiri Moïse Jonas. Ils sont auteurs de plusieurs hostilités dans cette partie du pays, notamment les tueries, les incendies et vols de biens des paisibles citoyens. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu, les FARDC du 222e bataillon de réaction rapide à la plaine de la Ruzizi ont mis la main hier mercredi sur un chef milicien Maïmaï connu sous le nom de Mbulu. Son arrestation est intervenue vers 12h dans la zone du village de Rukobero dans le groupement de Kigoma, chefferie de Bafuliru. Des sources sécuritaires affirment que le célèbre chef Maïmaï Mbulu Kamale a été arrêté dans le village de Rukobero à 10 km au sud-ouest de la cité de Sangé. Aussitôt arrêté, ce seigneur des guerres a été conduit au quartier général des FARDC à Kabunambo, dans la plaine de la Ruzizi, en attendant des nouvelles instructions, précise la même source sécuritaire. Fiston Goma.
Au cours de son interrogatoire, Mbulu Kamale a reconnu ses forfaits d'avoir volé des vaches appartenant à un éleveur dans la zone de Rulimbi dans le moyen plateau d'Ouvira. Deux armes et ses deux gardes rapprochés sont restés dans la brousse avec un autre chef Maï Maï. Il opérait avec Kamama et Mamadou dans la chefferie de Bafuliru. En dehors des vols de vaches, les FRDC lui attribuent plusieurs cas de braquage sur la route nationale numéro 5 et des cas de kidnapping de paisibles citoyens. Les sources locales révèlent que ce chef milicien a été appréhendé et arrêté sans aucune arme après s'être déguisé en civil dans sa tentative de traverser la zone des Sangé en direction de la rivière Ruzizi. Cette situation s'est produite alors que son groupe Mai Mai Mbulu et ses alliés avaient l'intention d'attaquer les positions des FRDC après des opérations lancées il y a un mois contre les groupes armés locaux dans la région de Butumba. Dans le cadre de ces opérations militaires, un autre chef milicien a été tué la semaine dernière, un autre encore Kijangala avait été arrêté. Par ailleurs, les activistes des droits de l'homme condamnent les tortures à l'aide d'un fouet qu'a subi ce seigneur des guerres pendant son interrogatoire et dont les vidéos ont été distillées dans les réseaux sociaux. Douvira Fiston, Mayaba, la Radio Kapi.
Opération conjointe FRDC-UPDF pour finir les stratégies pour mettre hors état de nuire le M23 qui occupe certains territoires à l'est. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi et le haut représentant du chef de l'État Tony Kanko en ont discuté avec le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. C'était hier dans la soirée au palais présidentiel à Kampala en Ouganda. Les deux personnalités congolaises ont été porteurs d'un message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à son homologue ougandais. Le point avec Blaise Shindani. Kambala.
Pendant plus de 3 heures, la délégation congolaise a échangé avec le président ougandais. Leurs échanges ont tourné de l'évaluation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les dossiers ADF, mais également l'insécurité occasionnée par l'activisme des M23 dans le Nord Kivu. Kampala est très préoccupé par la présence du M23 dans les Masisi. Museveni a dit apporter tout son soutien au processus de Nairobi et de Luanda et encourage les facilitateurs Uhuru Kenyatta à s'activer en vue d'un retour progressif de la stabilité dans la région. La situation humanitaire y est dramatique. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a par ailleurs salué la politique diplomatique de Félix Antoine Tshisekedi qui consiste à consulter et faire participer ses frères africains dans la recherche de la paix durable pour la partie est de la RDC. Notons que c'est depuis le 30 novembre 2021 que les forces régulières ougandaises UPDF et RD congolaises FARDC mènent des opérations conjointe contre des groupes terroristes transfrontaliers, dont les ADF notamment, dans les territoires de Beni et d'Irumu. Et les dernières informations font état des cohortes des terroristes et ADF mises en déroute par les deux forces conjointes et nombre de leurs bastions dans la région périphérique de Beni ont été repris.
Un retour significatif de la population est observé depuis 3 mois dans le village de Maboya. C'est à une quarantaine de kilomètres au sud de la ville de Beni. Le chef de ce village estime environ 90% le nombre des retournés à ce jour. C'est à la suite de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région après la dernière attaque des rebelles des ADF l'année dernière qui avait fait une vingtaine de morts. Ngeleza Kambale, chef du village de Maboya, indique que les activités socio-économiques ont repris. Toutefois, il dénonce des casseries policières dont est victime la population. C'est par exemple avec des amendes exorbitantes qui peuvent aller des 200 000 à 300 000 francs congolais pour des faits qualifiés de bénins. Un comportement qui, selon ce chef coutumier, risque de décourager les autres déplacés encore à Beni ou Butembo de rentrer chez eux ou même d'impacter négativement le mariage civilo-militaire dans la région. Deuxième titre de ce journal et nous parlons justice. Le procureur général près la Cour de cassation donne les premiers résultats partiels de l'enquête sur l'assassinat des chérubins Okende, député national et ministre honoraire des Transports. Selon Firmin Vondé, la balle tirée et extraite du corps du défunt provient de l'arme trouvée à côté de lui dans son véhicule. Les téléphones du défunt, ceux de son chauffeur et de son garde du corps étaient saisis par les enquêteurs et les interrogatoires se poursuivent. Quant à l'autopsie, elle sera effectuée pour compléter l'enquête à l'arrivée des experts internationaux attendus. Le procureur général faisait ce rapport hier mercredi en son cabinet. On l'écoute.
Je n'ai pas dit que l'autopsie a déjà été opérée. J'ai dit que l'autopsie est freinée. Il y a plutôt une réquisition à médecin, donc une réquisition à expert, pour que ce dernier fasse son travail. Et j'ai dû, ils sont prêts. Mais pour des raisons d'objectivité, de consolidation des résultats d'expertise, j'ai demandé à ce médecin expert local d'attendre pour qu'ensemble avec des experts qui vont venir de l'extérieur, qu'ils fassent le travail au même moment et qu'on ait des résultats consolidés et objectifs, puisqu'une expertise en cette matière, en principe, peut être contestée. Mais lorsque elle est contestée, et qu'on a déjà procédé à l'autopsie, vous pensez bien que le deuxième ne pourrait pas avoir les mêmes résultats. Parce que bon, ceux qui se connaissent un peu, c'est pas la même chose en d'autres matières. Ici, on est en autopsie, quand on doit aller dans les corps, tirer ceci, tirer cela, injecter peut-être tel produit, tel autre, on s'expose à ce que peut-être le deuxième qui aurait à faire le même travail ne puisse pas, même pas accepter peut-être, parce qu'il dirait non, on a déjà touché au corps. Donc le corps est intact. Et avec ce que nous avons nous sommes proposés de faire, nous attendons l'expertise extérieure.
Instauration dans la ville de Matadi au Congo central du système des barrières routières de 23h à 4h30 à partir de ce 19 juillet. Ces barrières seront installées dans 6 sites à travers toute la ville de Matadi. Il s'agit entre autres des ronds-points Belvédère, Ndanza dans la commune de Ndanza et celui de Mbwandu dans la commune de Mbunzi. Cette décision prise dans un arrêté signé par le maire de Matadi émane du Conseil urbain de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité à Matadi. Dans une interview à de Radio Capi, le maire de Matadi a indiqué que ces mesures viennent en appui à l'opération Kumba Kimbiko qu'il a initiée récemment pour traquer tous les véhicules et motos très souvent utilisés notamment par les hors-la-loi pour commettre leurs forfaits. Le maire de Matadi donne ses motivations dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambou.
Nous nous sommes rendus compte que quand nous patrouillons la nuit, comme nous avons 2 ou 3 jeeps seulement, alors quand nous sommes dans un coin, les malfaiteurs nous surveillent aussi et ils opèrent dans l'autre coin. Et quand nous allons remplacer dans ces coins-là, ils se déplacent. Alors pour mettre fin à leur manœuvre, nous avons décidé au cours de la réunion du Conseil urbain de sécurité de placer des barrières. Il y en a 6 à partir de 23h30 jusqu'à 4h30 au niveau du rond-point Belvédère, du rond-point Kinkanda, du rond-point 24 novembre, du rond-point Mvoidou, du rond-point Zanza et au niveau du croisement avenue Tsasandi-Tumba et avenue Ango-Ango. Ces 6 points de barrière, nous positionnons des policiers, des éléments des FRDC avec des moyens de communication, avec moyens de locomotion également. Le travail qui sera effectué au niveau de ces barrières, c'est d'abord contrôler la circulation des personnes et des véhicules aussi, même des motos. Les véhicules sans immatriculation ne peuvent pas circuler à partir de 23h30 jusqu'à 4h30. Les véhicules teintés avec les vitres, avec des rideaux, sont également interdits. Alors, en ce qui concerne les motocyclistes, la nuit, à partir de 23h30, ils doivent porter les gilets. À ce moment-là, nous connaissons le numéro de votre gilet. S'il y a un événement, nous savons directement identifier les porteurs du gilet et savoir mener les enquêtes. Et ça, c'est dans le souci de mettre hors d'état de nuire tous les bandits qui continuent à déranger la quiétude de la population au niveau de la ville.
Dans le grand nord de la province du Nord Kivu, après le secteur de la volaille qui subit de plein fouet les conséquences de cette dépréciation de la monnaie congolaise face au dollar, nous nous intéressons au secteur de la friperie et du transport en commun où la situation est tout aussi préoccupante. Guylaine Kassassia a fait le tour de la ville de Beni, voici son reportage.
Depuis bientôt un mois, les habitants, vendeurs et commerçants de Beni n'ont qu'un seul mot sur les lèvres, les taux du dollar. Celui-ci varie d'un jour à l'autre. De 2400 francs pour un dollar la veille, ces taux peuvent se situer le lendemain à 2500 voire 2600 francs congolais. Une situation qui n'arrange ni les vendeurs ni les acheteurs. Rebecca Kavuo vend des souliers au marché central de Beni, l'explique.
Nous qui vendons les souliers, nous avons perdu nos capitaux. Aidez-nous à rabaisser les taux. Nous partons tirer nos marchandises à Butembo. Et là, les ballots coûtent actuellement 100 dollars au lieu de 60 dollars IAP. Je vendais par exemple ces souliers à 5 000. Aujourd'hui, c'est 10 000. Nous ne sommes pas en train de nous retrouver, surtout que les clients n'acceptent pas ces nouveaux prix.
S'il y avait encore de l'espace pour faire les champs, cela nous soulagerait, pense pour sa part Tete Kaindo Mwenge, vendeuse de vêtements de seconde main ou friperie au marché de Mayangosi. Le secteur du transport n'est pas en reste. Une course sa moto qui revenait jusqu'ici à 1000 francs vous en coûte aujourd'hui 2000 francs congolais. Il en va de même des passagers qui voyagent entre Beni et Butembo. De 15 000 francs congolais, l'aller simple aujourd'hui, il varie entre 17 000 et 19 000 francs. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Restons dans la région, cette fois-ci à Boutembo, le Parlement d'enfants dénonce la présence des collines d'immondices le long de l'artère principale de la ville. Pire, des enfants y passent la journée à ramasser des flacons usagés et des métaux parfois dangereux. Il y a quelques jours, un enfant a perdu la vie après avoir touché un fil électrique sous ces immondices. Le Parlement d'enfants de Boutembo invite les parents à bien encadrer leurs enfants, surtout en cette période des vacances scolaires. Il demande également aux autorités de la ville de mettre en place une vraie politique de gestion des immondices à Boutembo. Rigen Bangaye, président du Parlement d'enfants de Boutembo-Loubero, est au micro de Marc Marofimbo.
Les déchets qui se retrouvent d'ici et là au niveau de la ville, c'est un grand défi pour toute la ville de Boutembo qui ne cause pas seulement problème aux grandes personnes, mais aussi à ces enfants qui ne sont pas vraiment encadrés, qui trouvent bon aller chercher quelques déchets ou quelques flacons au niveau de ces poubelles. C'est un grand danger pour tous les enfants avec beaucoup de risques et de maladies pour les enfants. Ce qui nous amène à lancer un grand message pour d'abord le parent à être vraiment responsable, à savoir que laisser les enfants errer dans la rue et s'exposer l'enfant à toutes sortes de maladies, à tout ce qui est mauvais qui peut arriver dans la rue, et aussi la bonne gestion de déchets ou des poubelles, c'est une éducation que les parents doivent offrir à leurs enfants. Mais le grand message revient aux autorités urbaines qui ont dans leur responsabilité la gestion de la ville, de faire de leur mieux pour que ces déchets ne puissent plus continuer à être là, car ça a beaucoup de conséquences sur la vie de toute la population et plus particulièrement sur la vie des enfants, d'autant puisqu'ils ont une santé très fragile et sensible à tout ce qui est microbes qui peut arriver à ces niveaux-là.
Actualité internationale.
Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse sur la présidence des BRICS jeudi à Rosebank, Johannesburg, suite à l'annonce de l'absence du président russe Vladimir Poutine au sommet d'août. Le directeur général adjoint pour l'Asie et le Moyen-Orient, Sherpa des BRICS, Anil Soukal, a déclaré aux journalistes que Vladimir Poutine assistera virtuellement au sommet car il ne veut pas compromettre le sommet ou créer des problèmes pour l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que toute tentative d'arrestation du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite dans le pays le mois prochain serait une déclaration des guerres avec la Russie.
L'invité.
Notre invité est Fabrice Moulouahali. Il est avocat, défenseur des droits de l'homme et activiste du mouvement de pression Lucha, lutte pour le changement. Avec lui, nous allons parler de la journée internationale Nelson Mandela, proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009 et célébrée le 18 juillet de chaque année. Fabrice Moulouahali s'entretient avec André Kitenge.
Fabrice Moulouahali, bonjour.
Bonjour à vous, monsieur le journaliste.
Le 18 juillet, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Question simple, que signifie pour vous cette journée?
Alors, il faut dire que c'est un honneur de voir toute une communauté réunie et consacrer cette journée à la personne de Nelson Mandela qui, pour la plupart des militants, de vrais militants, Nelson Mandela est un visage de proue, c'est une icône de la lutte non violente, est une icône de la lutte pacifique, c'est-à-dire lui consacrer toute une journée internationale. Cela reflète l'ampleur du résultat de son combat de plusieurs décennies.
Pour les jeunes générations, beaucoup de jeunes ne sont pas au courant du combat qu'a mené Nelson Mandela et qui a fait de lui l'icône qu'il est devenu pour son pays, l'Afrique du Sud, mais aussi pour l'Afrique et même le monde entier. En quelques mots, c'était quoi son combat? Que vous inspire cet homme?
Alors, vous savez, le continent noir a, au cours du XXe siècle, fait face à une colonisation de la part des pays européens. Et il faut dire que la phase des indépendances dans les pays africains était intervenue vers les années 60 en montant. Alors, l'Afrique du Sud, qui était colonisée par l'Angleterre, et évidemment, durant de très longues années, faisait face à l'apartheid. Et ça, c'est un mal profond auquel les Sud-Africains avaient fait face. À l'époque, principalement chez eux, c'était à l'extrême, quoi. Donc, un noir ne pouvait pas entrer par une même porte dans un hôpital avec un blanc. Il ne pouvait pas aller dans une même école, noir et blanc. Même devant une pharmacie, il y avait une porte pour les blancs, pour les noirs. Et Mandela, avec tout son courant idéologique, avait pensé que c'était injuste, parce que en tant qu'être humain, nous sommes tous égaux et que l'on ne pouvait pas continuer avec cette sorte de ségrégation raciale. Et il avait, avec les autres, créé l'ANC, qui était son parti politique, pour pouvoir stopper cette sorte de discrimination raciale à laquelle toute sa communauté, la communauté noire sud-africaine, avait fait face durant de très longues années. Et cette lutte qui n'était pas la bienvenue chez les colons lui avait créé d'énormes ennuis, lui amenant à passer plus de 25 ans en prison. Alors, aussitôt libéré de la prison, il avait quand même accepté de cohabiter avec son oppresseur d'hier, pourvu que son objectif, celui de l'égalité de peuples et des races, soit une réalité. Alors que à l'époque, c'était les Blancs qui étaient ses oppresseurs, les mettant en prison pendant toutes ces années. Mais à la fin, l'accord pour qu'il soit libéré était qu'il rentrait en ville, en toute liberté, mais qu'il devrait devenir d'abord sous la conduite d'un dirigeant blanc. Il avait accepté, tout en pardonnant à tous ceux qui avaient concouru à son arrestation et à sa longue détention. Et l'idée pour lui, c'était de dire, bon, voilà, je suis là, je continue les combats, mais en interne, ça veut dire déjà dans une institution, pour aider mes compatriotes à bénéficier de cette égalité des races et de toutes les autres valeurs.
Alors, lorsqu'on voit aujourd'hui les assassinats, les guerres, les injustices sociales, la pauvreté, alors que Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité, lui qui prenait la justice, la non-violence, le pardon et j'en passe, en tant que défenseur des droits de l'homme, Nelson Mandela ne devrait-il pas se retourner dans sa tombe? Son combat n'aurait donc servi à rien?
Il y a plusieurs leaders qui, aux allures de Nelson Mandela, qui seraient en train de regretter de partout où ils se trouvent, pourquoi leur postériorité n'a pas su pérenniser ce qu'ils avaient comme idée fondatrice, tout ce qu'ils avaient comme ambition autour de la communauté du pays ou de leur pays respectif. Il faut dire Mandela, tous les autres, Kwame Nkrumah, Uhuru Kenyatta ou Julius Nyerere, Nelson Mandela, Thomas Sankara, ils sont tous partis, laissant l'Afrique dans une sorte de vide de leadership. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, certains pays africains sont impliqués dans des attaques contre d'autres pays africains, alors qu'au fond, nous sommes un seul peuple, nous sommes tous citoyens du monde. Et je pense, à mon niveau, que Nelson Mandela, même après lui, il y a eu en Afrique du Sud un problème entre noirs, c'est-à-dire certains sud-africains, notamment les Zoulous, qui pensent qu'ils sont mieux sud-africains que d'autres noirs se trouvant en Afrique. C'est une trahison, c'est une douleur qui visiblement ferait mal à la mémoire de quelqu'un comme Nelson Mandela qui a consacré toute sa vie à la liberté, à la justice, au pardon, à l'égalité.
Dernière question, Fabrice Moulohali. Vous êtes de la Lucha, ce mouvement dit citoyen qui s'illustre parfois par la violence, bref, par des actions violentes de plus en plus décriées par la population. On vous accuse même de forcer certains à adhérer à vos idées. N'est-ce pas paradoxal avec les idéaux prônés par quelqu'un comme Nelson Mandela?
La Lucha se sentirait très mal à l'aise de pouvoir commenter des propos, des élucubrations, ça veut dire des gens qui, pour des intentions peu connues, inventent des légendes, peut-être dans l'objectif de ternir l'image de ce seul mouvement jusqu'à preuve du contraire qui incarne, qui prône encore des valeurs liées à la tolérance, à l'indépendance, à l'égalité, à la non-violence principalement. Et donc, si aujourd'hui la Lucha ne connaît pas encore l'adhésion, peut-être de toute la population, c'est parce que elle est tolérante, c'est parce qu'elle ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à un mouvement de cette nature-là, parce que, croyez-moi, la non-violence est une grandeur d'esprit. Vous ne pouvez pas mener une lutte non-violente n'ayant pas un grand esprit, parce que ce n'est pas facile de faire face à un oppresseur armé et venir avec un bout de papier portant des mentions. Vous faites tabasser et vous ne répliquez pas alors que vous avez des moyens physiques pour riposter. Vous ne le faites pas parce que vous croyez que la non-violence peut apporter des solutions plus durables que la violence, parce que vous croyez que la violence n'engendre que la violence et que la non-violence, c'est la voie la plus civilisée des êtres humains au cours de cette époque, si qu'on supposerait comme une époque plus ou moins évoluée que d'autres.
Fabrice Moulohali, merci.
Merci à vous, monsieur le journaliste.